Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vincent Desureaux, Des.
Cube Radio.
Plusieurs sujets à couvrir avec Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et de Québec. On la rejoint tout de suite. Bonjour Madeleine.
Salut Vincent.
On commence par, tu as un dossier quand même chaud là, sur la langue française. En 2019-2020, l'Office québécois de la langue française, on apprenait ça aujourd'hui, a reçu plus de 1000 plaintes de personnes qui estiment ne pas avoir été servies en français adéquatement. C'est une explosion carrément des cas de plainte au Québec. On était à 418 il y a à peine 5 ans. Je sais pas si c'est la pandémie qui est en lien avec ça, mais clairement, je sais pas si c'est les Québécois qui se tentent de se faire servir en anglais ou c'est carrément qu'on se fait davantage servir en anglais.
Ben, il y a une écœurantiste, en tout cas, Vincent. Puis moi, bien honnêtement, là, on dirait que je comprends pas trop ça. Puis je me demande si c'est une affaire de génération. Moi, j'ai 24 ans, puis je me demande si les millénarios, ben, est-ce qu'on s'en fout un peu de se faire servir en anglais? Parce que sincèrement, moi, ça me dérange pas tant que ça.
Mais c'est ça, je pense qu'il y a clairement... Moi, ça me dérange, peut-être parce que je suis un vieux millénial. C'est peut-être ça, moi, ça me tique. Entre autres, les livraisons. On voit beaucoup ça, là. On se fait livrer de la nourriture un peu partout. Les livreurs sont souvent première ou deuxième génération d'immigrants. Ça, c'est parfait. Mais je me dis, tu livres, là. T'as juste besoin d'apprendre trois mots. Merci, bonjour, bonne journée. Ça se règle en 10 minutes, là. Donc, tu peux beau me dire que tu es arrivé au pays il y a un an, deux ans, il y a un mois. C'est quelque chose, tu vas en voyage quelque part, tu apprends des petites salutations de base et ça devient frustrant, je trouve. Bon, pour moi, ça devient frustrant de pas être capable de juste me faire dire merci, bonne journée en français pour ce genre de service-là. Mais toi, ça te dérange pas.
Mais je peux comprendre que ça peut être hyper frustrant. Ce que j'ai l'impression, Vincent, là, c'est que bon, les plus jeunes personnes, c'est un peu comme le féminisme. Moi, j'avais eu la même réflexion. C'est que tant que tu le vis pas au quotidien, puis tant que tu vois pas qu'on n'a peut-être pas gagné le combat encore, ben tu te rends pas compte de l'ampleur du problème. Tu sais, c'est la même chose avec le féminisme pour moi. Moi, je pensais que l'égalité homme-femme était atteinte là, quand j'étais au secondaire parce que j'avais pas vu puis j'avais pas ressenti que c'était pas nécessairement atteint. Fait que je pense que c'est la même chose pour le français. Pour quand on se fait servir en anglais, c'est comme si on se rendait pas compte vraiment qu'il y avait un problème. Puis je pense que c'est dû peut-être avec notre manque d'expérience de vie.
Mais j'avoue que j'ai l'impression qu'à Montréal, il y a des endroits, vu que ça arrive, qui s'en foutent, qui ont l'impression que c'est normal. Et en dehors de Montréal, il y en a qui s'en foutent parce qu'ils ont l'impression que ça n'existe pas.
Ben c'est ça. Je pense qu'il y a un problème. Puis pourquoi ça nous dérange pas? Ben tu le disais tantôt, là, tu sais, je pense nous les jeunes, on est quand même sensibles à la réalité des immigrants qui parlent pas tous bien français là, quand ils arrivent. Là, par exemple, le chum de mon ami, ben il vient d'Inde. Ça fait 2 ans qu'il est arrivé. Ben il parle vraiment pas bien français. C'est pas parce qu'il prend pas des cours puis c'est puis ça, mais il travaille au Tim Hortons. Puis ben c'est sûr qu'il sert ses clients en anglais. Tu sais, fait qu'après ça, oui, ça peut être dérangeant pour le client, mais je pense qu'il faut aussi avoir la capacité de se mettre l'autre bord puis de comprendre la réalité. Il pourrait apprendre des petits mots effectivement, mais il faut quand même laisser la chance aux coureurs puis leur laisser du temps. Puis parler anglais, Vincent, c'est cool. Tu sais, nous, on écoute nos émissions en anglais, notre musique, on écoute de l'humour en anglais avec les plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime. On consomme plus d'anglais que de français. Fait que de se faire parler en anglais au magasin, c'est à quoi de cool, là, parce qu'on est capable de répondre, tu sais.
Mais j'ai l'impression qu'il y a des anglophones chez nous qui travaillent en anglais, qui vont nous répondre en anglais dans le service à la clientèle, mais qui vont là voyager, être ouverts sur le monde, vouloir apprendre une deuxième langue, mais ce sera l'espagnol ou l'italien ou l'allemand, mais pas le français.
Non, on va se dire, le français, c'est vraiment compliqué. Là, j'ai fait une dictée l'autre jour pour le fun, Vincent, puis je veux dire, c'est difficile là de connaître toutes les règles. Puis tu sais, j'étais
l'allemand aussi.
J'ai pas eu tant de fautes.
Mais
ce que je veux dire, c'est que quand même, faut laisser la chance au coureur. Puis je comprends que c'est vraiment un dossier chaud, puis que c'est vraiment quelque chose d'important. Puis sais-tu, je vais prendre je vais me faire une promesse à moi-même que d'essayer de voir, de chercher plus pourquoi ça me dérange pas, puis de chercher plus si je pourrais pas comme contribuer au fait que le français soit bien implanté au Québec, parce que c'est vrai qu'on a peut-être un petit problème à ce niveau-là.
Parce que j'ai l'impression, moi, quand ça me dérange, là, ça, je me fais répondre en anglais. Je sais pas comment réagir parce que je me dis, moi, le livreur là, dont je te parle, lui, il travaille, il veut pas mal faire. J'ai pas le goût juste d'y répondre bête pour y répondre bête ou en français. Puis c'est difficile de faire juste une remarque polie en disant, et c'est pas compliqué, là, juste me dire bonjour. Puis si tu vois que je réponds pas en français, ben tu diras hi. Mais c'est difficile là, sans passer pour le client frustré, là. Ou une maudite folle, là, si t'es en train de faire. Ben là, en français, on a de la misère, les Québécois aussi, à confronter là-dessus, parce que je suis allé au Japon, là, et au Japon, dans bien des restaurants, on te donne un menu en japonais, puis arrange-toi, là, on te parle en japonais, puis là, t'es là à essayer de traduire avec Google Photos, puis personne pleure sur ton sort, là. Mais nous, on se sent mal plus vite, là.
Non, mais parce qu'on a le droit de se faire servir en français, puis ça peut être gênant parce que, un, faut que tu l'expliques en anglais, que tu veux te faire servir en français si tu veux que la personne comprenne. Puis il y avait une enquête du bureau d'enquête qui était sortie à l'automne. Il est allé visiter 30 commerces, puis ben la moitié des commerces y accueillaient en anglais, puis il y a même des fois carrément où c'était pas possible de se faire servir en français. Fait que ça peut être gênant là, quand tu parles pas bien anglais ou que tu parles pas anglais du tout, de demander ça. Puis en plus de devoir le demander en anglais, c'est quand même un droit fondamental. Puis je pense aux jeunes, puis ça leur dérange pas, mais oui, ça peut déranger à plein de gens, puis c'est un droit vraiment, vraiment légitime. Fait que je comprends pourquoi il y a des plaintes. J'espère que ça va
se régler
aussi.
On reste à Montréal un peu parce que tu nous parles de villes progressistes qui pourraient servir d'inspiration pour la métropole.
Ben oui, pourquoi pas? C'est un article qui est paru dans Le Devoir mardi cette semaine. Et puis, c'est une chercheuse en sciences politiques à l'Université de Concordia qui s'appelle Megan Joy, qui explore dans un article récemment publié dans le Urban Affairs Review. Elle explore des villes progressistes qui pourraient nous inspirer parce qu'on sait qu'à Montréal, bon, les logements sont de moins en moins abordables, le transport en commun, ça va pas super bien, ça dessert pas bien, il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de gens qui retournent en campagne. Moi, il y a beaucoup de gens de mon entourage, de mon âge, Vincent, qui sont tannés de la ville, complètement écœurés de vivre un par-dessus l'autre. Fait que ça retourne en banlieue, ça retourne en campagne. Je pense que la pandémie a moussé aussi ce sentiment-là, ce besoin d'avoir de l'air libre. Mais je me demande s'il y a pas, on peut pas s'inspirer d'autres villes pour rendre Montréal meilleur. Parce que moi, je vis en ville, puis j'ai bien beau aller au parc La Fontaine puis profiter beaucoup des espaces verts, aller au parc Mont-Royal, j'ai besoin d'une bouffée d'air frais. Puis il y a beaucoup d'exemples de villes qui sont très intéressants. Par exemple, à Vienne, il y a environ la moitié des logements qui sont la propriété de la municipalité autrichienne. Fait que ça permet de réguler aussi l'augmentation des loyers, puis ils sont pas sujets aux aléas du marché.
Garder des citoyens aussi dans le centre-ville, là, parce qu'il y a un problème dans bien des villes où on se retrouve juste avec des endroits en location carrément ou de la spéculation, là.
Ben oui, c'est ça, tu sais, puis de garder les quartiers vivants, puis de garder vivants, ben c'est d'avoir des logements, d'avoir des gens qui y habitent, tu sais. Il y a aussi par exemple la ville de Seattle, la taxe a été annulée, mais c'était une belle initiative, je trouvais. Ils avaient essayé d'implanter une taxe pour forcer les grandes entreprises comme Amazon à financer le logement abordable. Fait qu'il faudrait que Montréal mette ses culottes, Vincent, puis aide ses citoyens. Puis il y a la ville de Cleveland aux États-Unis qui soutient des coopératives de travailleurs et des fermes urbaines. Donc c'est le temps là de rendre plus vert Montréal, de le rendre plus vivable, de le rendre vraiment plus intéressant aussi pour que des gens viennent y habiter puis qu'on veuille y rester. C'est vraiment important. Puis là, maintenant, il y a les augmentations de loyers qui arrivent. J'ai reçu la mienne cette semaine.
Et?
Ça augmente c'est pas pire. Ça augmente de 5$ de mon côté. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça augmente trop, là, de votre côté, là, vous avez un rôle à jouer pour pas que les loyers montent trop vite puis que, ben, on se ramasse quasiment à la rue à plus pouvoir se trouver de loyer. Si votre loyer augmente trop, puis c'est pas dans les règles, s'il vous plaît, faites une plainte à la régie du logement pour vraiment qu'on réussisse à réguler tout ça, parce qu'on a un rôle à jouer en tant que locataire, je trouve.
Oui. Est-ce qu'il y en a quand même aussi qui, moi j'en connais, là, qui gagnent très bien leur vie, puis au bout de 2 ans, leur propriétaire les augmente de 20$, puis là on se retrouve devant la régie, alors que eux, l'édifice coûte, enfin, va peut-être doubler de prix, là, d'ailleurs, parce que l'immobilier, il y a une frénésie. Est-ce que certains sont sont trop combatifs?
Ben, ce qui est glissant avec ça, Vincent, c'est que même si tu as raison, si tu fais une plainte à la régie du logement, ça te fait une note au dossier. Fait qu'après ça, pour te trouver d'autres appartements, ben ça peut être un peu tricky, là. Tu sais, c'est ça qui est poche. Fait que je parle aux gens, puis on fait des plaintes à la régie du logement quand ça n'a pas de bon sens. Mais je parle surtout aux propriétaires, là. Faites pas des augmentations pas de bon sens, puis arrêtez de profiter des locataires, tu sais, parce que des fois on a peur, on sait pas comment faire. C'est beaucoup de temps d'investissement que de faire une plainte à la régie du logement. On sait pas comment s'y prendre. Fait que je pense que la responsabilité principale revient aux propriétaires de pas abuser de leur pouvoir.
Et on termine avec un sujet très intéressant parce que j'ai vu ça passer ce matin. Je me dis, ah non, c'est pas vrai. La coupe Longueuil, est-ce que c'est de retour? Est-ce que ce sera une nouvelle tendance?
Ben, je pense que oui. Il y a des stars qui l'ont adopté, comme Rihanna, Miley Cyrus. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça devient populaire. Puis je me demande, toi, t'es pour ou contre la coupe Longueuil, Vincent?
Ben, ça dépend parce qu'il faut. C'est comme tout. Tout revient, mais c'est généralement retravaillé un peu. Donc là, il faudrait que j'en revoie, là. Mais je suis pas complètement contre, mais ça va prendre une touche de modernité.
Ben, c'est ça. C'est cyclique. Puis je pense que. La mode, c'est cyclique. Puis je pense que, ben, en tout cas, de ce qu'on voit avec Rihanna, Miley Cyrus, moi, j'ai une amie qui porte fièrement la coupe Longueuil. Puis c'est quand même stylé, là. Moi, je trouve pas ça laid. Et puis, tu sais, il y a plusieurs raisons pourquoi on porte ça. Premièrement, c'est que ça peut permettre de cacher le coup du soleil, hein, pour ceux qui travaillent dehors. Mais
pense... pour ceux qui font de la toiture, OK, c'était pour ça, dans le fond, à Longueuil.
Okay. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment pour permettre de s'exprimer. Puis en confinement, c'est ça que je disais, c'est qu'on on a moins peur du regard des autres. Fait qu'on essaie des trucs avec nos cheveux, comme la coupe Longueuil. Puis ben on a le temps de s'acclimater, puis on a le temps de aussi de tu sais, on n'est pas confronté tout de suite au regard des autres, tu sais. Fait qu'on a le temps de vraiment comme comprendre notre coupe, puis de bien l'agencer, puis de bien la coiffer. Puis ben je pense que ça a motivé des gens à essayer des trucs, puis de mettre un peu de piquant dans leur vie.
Est-ce qu'il y a un danger quand même de... Il y en a plusieurs qui sautent sur la première coupe à la mode, là, qui circule un peu sur les réseaux sociaux, et reste que les cheveux, ça repousse pas nécessairement si vite, là, surtout quand c'est des cheveux longs. Moi, ça repousse vite, il n'y a pas de problème, mais là-dessus, je me souviens, par exemple, la mode à un moment donné, là, c'est des teints en gris, là. Puis là, tout le monde était teint en gris. Il y a des fois des modes comme ça qui arrivent, puis là, on embarque là-dedans instantanément avec les cheveux. Est-ce que ça peut quand même, on peut le regretter dans quelques mois?
Ben, je pense que oui, mais si on le regrette, la partie plus longue au niveau du cou, ben, elle se coupe facilement, puis on se ramasse avec une coupe plus courte. Puis les gens qui se mettent des coupes comme ça, qui optent pour des coupes comme ça, ben, c'est souvent des gens qui ont pas peur du regard des autres, qui aiment souvent essayer des nouvelles coupes de cheveux. Fait que ce sera pas long qu'ils vont se ramasser avec les cheveux d'une couleur ou d'une autre coupe de cheveux complètement. Fait qu'on leur fait confiance, puis moi, je trouve que ça met un beau piquant sur les réseaux sociaux de voir des mullets, comme on appelle en anglais, des mulets. Hein? C'est aussi le nom de la coupe Longueuil. Je trouve ça beau, moi, voir ça, de voir des coupes colorées sur les réseaux sociaux. Puis, ben, on accepte tout le monde comme il est, puis je trouve ça bien beau.
Un beau mulet. On verra ça peut-être cet été. Madeleine, un gros merci.
Bonne fin de semaine.
Salut, Madeleine, pilote côté.
Vincent Desureaux, Des.